Le prince de la maison de David, lettre 5. Mon cher père, quoique 3 jours seulement se soient écoulés depuis que j'ai complété ma dernière lettre à ta destination, je suis si solliciteuse de ton jugement et de ton conseil sur les événements remarquables qui occupent maintenant l'esprit de tout Israël, que je ne peux me retenir de te donner le rapport supplémentaire des événements restants liés à la visite du cousin de Marie, Jean, au divin prophète du Jourdain. Vu que ces paroles ont eu une profonde impression sur mon esprit et m'ont amené à croire avec lui dans la vérité des paroles de ce prophète, il est convenable que tu saches avec moi tout ce qu'il m'a dit et ce qui a influencé mes sentiments et mes opinions, afin que tu puisses juger du poids et de la valeur auquel ce que j'ai entendu doit être estimé. Et sois assuré, cher père, que je suis prête à être guidée en toutes choses par ta sagesse et ton savoir. Écoute alors, avec ton habituelle bonté, le reste de la narration du jeune homme. Après que le prophète eut terminé son second discours et baptisé 200 personnes en plus dans les eaux mousseuses du Jourdain, continua l'éloquent cousin de Marie, il les envoya à la ville pour se loger et acheter de la viande, car peu, dans leur ardeur de l'écouter, avaient apporté des provisions avec eux. Beaucoup, avant de le quitter, s'approchèrent pour recevoir ses bénédictions d'amour. Et ce fut touchant de voir des hommes vénérables, avec des cheveux qui brillaient comme de l'argent, et appuyés sur un bâton, courber leur tête âgée devant le jeune Élie, comme si ce fût en connaissance de sa commission divine. Des mères aussi apportèrent leurs enfants, afin qu'ils les bénissent. Et de jeunes hommes et jeunes filles s'agenouillèrent avec révérence à ses pieds, en larmes d'amour et de pénitence. Calmement, il se tint sur les rivages verts, semblable à un ange descendu sur terre, et les bénit en des paroles tant nouvelles à nos oreilles, mais qui firent tressaillir nos cœurs avec une certaine puissance secrète qui nous agita avec une joie tremblante. « Dans le nom de l'agneau de Dieu, je vous bénis. » « Quelle peut être la signification de ces choses ?» demande Marie avec sa douce sincérité. Son fiancé ne put seulement répondre qu'il ne savait pas. À la fin, l'un après l'autre, la foule se dispersa, sauf quelques-uns qui campèrent sous les arbres sur les bords de la rivière. Joseph d'Arimathée et moi étions presque seuls debout près du prophète, le regardant avec une curiosité respectueuse. Le soleil venait de disparaître au-dessus des lointaines tours de Jéricho, colorant du pourpre le plus riche des collines entre la rivière et Jérusalem. Le Jourdain, captant son éclat rougissant, coulait devant, semblable à une rivière d'or liquide enchâssée dans l'émeraude. Le front du prophète, éclairé par un rayon solaire qui brillait entre les branches d'un grenadier, paraissait comme la face de Moïse quand il descendit de Sinaï, une gloire de lumière. Il semblait ravi dans une méditation céleste et nous étions silencieux et le contemplions, n'osant pas parler. À la fin, il se tourna vers nous, sourit et, nous saluant, saisit la houlette ou le bâton sur lequel il était appuyé, car il était épuisé et pâle suite au labeur du jour. Et lentement, il descendit le rivage en direction du désert. Il n'avait pas fait beaucoup de pas que je sentis une irrésistible impulsion de le suivre. Je brûlais d'envie de parler avec lui, de m'asseoir à ses pieds et de lui poser des questions sur les grandes choses que je l'avais entendu dire dans ses discours. Je désirais qu'il m'expliquât et me dévoilât ce qui m'avait semblé mystérieux et cependant fourmillant des puissantes révélations. J'avais envie de lumière, de connaissance. Je soupirais de le voir m'ouvrir les Écritures et me donner cet entendement illimité de celles qu'il possédait. Par conséquent, je dis à mon compagnon, « Suivons-le et apprenons plus sur ces grandes choses que nous avons entendues aujourd'hui. » Joseph, comme moi-même, soucieux de tenir une conversation avec lui, consentit tout de suite et nous marchâmes lentement après lui, alors qu'il marchait dans une humeur contemplative le long du chemin du désert. Le soleil était déjà couché et la pleine lune s'était levée sur la rive opposée, et le prophète s'arrêta comme pour contempler sa beauté automnale. Nous nous approchâmes de lui. Il nous vit, mais ne nous évita pas. Voyant cela, j'avançai avec une confiance timide et dis « Saint prophète du Dieu Très-Haut, permettras-tu à deux jeunes hommes d'Israël de te parler, car nos cœurs soupirent après toi avec amour. Et nous serions heureux de te tenir compagnie dans le désert, Rabbi, ajouta Joseph, car il ne semble pas bien pour toi de demeurer ainsi seul. Mais principalement, dis-je, nous voudrions nous enquérir de ton enseignement sur la venue du puissant personnage que tu proclames être proche. Ami, dit le prophète de façon calme et sereine, je demeure dans le désert et seul par choix. Je m'approche des hommes uniquement pour proclamer mon message. Les plaisirs de la terre ne sont pas pour moi. Ma mission est unique. Sa durée est courte. Son but est digne du plus grand prophète de Dieu. Cependant, moi, le moindre parmi eux, je ne suis pas digne d'être appelé prophète. Et devant la splendeur de celui que j'annonce au monde, je suis la poussière de la balance. Si vous m'avez cherché pour la connaissance, venez et asseyez-vous avec moi sur ce roc, et laissez-moi écouter ce que vous avez à me demander afin que je vous réponde et que j'aille mon chemin. Ceci fut dit doucement, presque avec tristesse, et dans un ton qui fit l'aimer encore plus. Je me serais jeté sur sa poitrine et aurais pleuré là, car j'étais profondément touché du fait que quelqu'un pouvait être choisi par Jéhovah pour devenir son prophète pour la terre et cependant montrer une telle humilité de cœur et sincère humilité. Nous nous assîmes de chaque côté de lui, car il refusa de nous laisser nous asseoir à ses pieds, disant avec reproche, comme il le fit à tous ceux qu'il avait vus s'agenouiller devant lui, « Moi aussi je suis un homme ». La scène et l'heure convenaient mieux pour une telle conversation que nous étions sur le point de tenir. Le large disque de lune déversait pleinement sur nous un déluge de rayonnements teintés en orange et conférait une douceur sanctifiante à la divine expression du jeune prophète. Le Jourdain sombre, comme la teinture indienne, fonçait promptement près de nos pieds, entre ses bords profondément obscurcis, envoyant à nos oreilles le faible murmure de son passage parmi les cailloux. Au-dessus de nos têtes s'élevait la voûte du temple de Jéhovah, avec ses myriades de feux de l'autel. À notre gauche était Jéricho, tout à fait visible, paraissant comme une masse sombre de pierres de forteresse, non illuminée sauf par une simple veilleuse qui brûlait de sa haute tour. Derrière nous s'étendait le désert perdu, triste et cependant grand dans ses étendues solitaires. Au loin s'éleva dans l'air et nous parvenait par intervalle la voix d'un chanteur dans l'un des camps, et près de nous, sur un acacia, était assis un bulbule solitaire qui chantait sans cesse son hymne doux et varié à la lune qui l'écoutait. « Toute chose loue Dieu, resterions-nous silencieux ?» dit le prophète. « Chantons l'hymne du soir du temple. » Alors il commença dans un chant riche mélodieux tel que je ne l'avais jamais entendu des prêtres, notre psaume sacré à toute la création de Dieu. Nous joignîmes nos voix à la sienne et la marée de louanges flotta par-dessus les eaux et fit écho et refit écho, des rives opposées comme si des bords et rivières, arbres, collines et ciel avaient trouvé la voie aussi bien que nous. Louez, louez, louez l'Éternel, louez-le dans les hauteurs, louez-le dans les mers, louez-le, homme d'Israël, louez l'Éternel, car il élève haut son peuple et règne pour toujours. Louez-le, vous tous les anges, louez-le, vous tous les peuples, louez-le, soleil et lune, et vous toutes les étoiles de lumière. Louez-le, feu et grêle, louez-le, tempête et neige, car il juge la terre avec justice et règne pour toujours. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez-le, voyalaï, ailé et troupeaux, bétail et toutes les bêtes. Louez-le, roi et peuple, prince, sacrificateur et juge. Louez-le, jeunes garçons et jeunes filles, vieux et enfants. Louez le nom, qu'il loue le nom, louez le nom de l'Éternel, Dieu des armées, car seul son nom est excellent, sa gloire au-dessus des cieux. Israël est son premier-né, un peuple bien-aimé. Louez, qu'Israël par conséquent le loue, louez-le pour toujours, à jamais, pour toujours. Je n'oublierai jamais l'effet produit dans mon être intérieur par cet hymne chanté à pareil moment, à pareil endroit et en pareille compagnie. Le prophète chanta comme s'il dirigeait une chorale des anges. Mon cœur bondit au refrain comme s'il allait échapper, prendre des ailes et quitter la terre. Quand nous appelâmes les vents et volailles de l'air pour louer Jéhovah avec nous, ça pouvait être fantaisiste, mais la voix tremblante du bulbule sembla déverser de sa gorge un flot déchaîné, riche et très joyeux de chants, et le vent audible pliait les arbres adorants et mêlait ses mystiques chuchotements aux psaumes des hommes. Sûrement, pensais-je, il est bon pour moi d'être ici, car ceci n'est rien autre que la porte du paradis. Après quelques moments de silence, le prophète parla et dit « Vous me cherchiez, frère d'Israël, puis-je faire quelque chose pour vous ? Nous voudrions entendre plus, grand prophète, concernant cet homme puissant, s'il peut être appelé homme qui doit venir après toi, dit Joseph. Je peux vous dire, mais très peu, mes frères, en dehors de ce que vous avez entendu de moi aujourd'hui. Le futur est voilé. Je porte un message, en effet, mais je ne peux pas briser le sceau et lire. Je ne suis que le messager de Dieu à l'homme. À vous, il sera donné de connaître ce qui m'est inconnu maintenant. Heureux, trois fois heureux êtes-vous qui allez voir face à face le divin que je peux seulement voir de loin. S'il m'est permis de le voir, ce ne sera que pour un temps bref, car quand il vient, je m'en vais. Ma commission est faite. Bénis sont ceux qui vivent pour voir sa gloire et entendre la gracieuse voix de Dieu qui sort de ses lèvres ointes. Quand va être sa venue, avec quelle forme et quel pouvoir vient cet être divin ? Demandai-je. Comme un homme, mais non avec l'apparence de forme que les hommes vont désirer. Son apparence sera humble, basse et douce. Cependant, tu as dit aujourd'hui, Rabbi, continuai-je, que son pouvoir sera infini et que son royaume n'aura pas de fin. Tu as parlé de la gloire de son autorité et de l'humiliation des rois gentils sous son sceptre. Ceci, je ne peux pas l'expliquer. C'est un mystère pour moi. Je parle comme Dieu, par qui je suis envoyé et qui me donne la voix. Je sais que celui qui vient après moi est plus grand que moi et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Tu nous as enseigné ce soir, saint prophète, qu'il sera l'Éternel venant du ciel. Et cependant, qu'Ésaïe a dit qu'il sera méprisé et rejeté des hommes, blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. L'Esprit de Dieu m'enseigne que ces paroles s'appliquent au Shiloh. Mais je ne peux pas comprendre comment ces choses peuvent être, répondit-il avec une profonde tristesse. Puis-je te rappeler, bon Rabbi, dit Joseph, que tu as enseigné comment ce divin personnage devrait mourir, quoique seigneur de la vie, et être compté dans sa mort parmi les transgresseurs, quoique saint de Dieu. Et tels sont les événements qui sont ordonnés pour arriver. Mais ne cherchez pas à connaître ce dont personne n'a eu à recevoir la révélation. Le Messie divin lui-même doit être son propre interprète. Bénis seront les yeux qui le verront et écouteront la sagesse de sa bouche et garderont la loi de ses lèvres. Puis-je te demander, saint prophète de l'Éternel, dit Joseph, comment celui dont tu es envoyé par Dieu pour rendre témoignage peut être le libérateur d'Israël quand tu prédis à son sujet un triste sort ? Le Messie doit restaurer Jérusalem et la gloire du temple et la splendeur de son adoration, ainsi dit Ésaïe. Ainsi disent Ézéchiel et Jérémie. Il est appelé un puissant prince, un roi, le rédempteur d'Israël qui va diriger des nations et avoir la domination de la mer à la mer, du fleuve aux extrémités de la terre. Par conséquent, dans le Messie des prophètes, nous avons attendu un puissant potentat qui va régner à Jérusalem sur toute la terre et soumettre toutes les nations, emmener leur roi captif à son marchepied et lier leur prince avec des chaînes devant qui tout genou doit rendre hommage. Un monarque qui ne laissera pas une sandale païenne fouler le sol sacré de Juda et qui va établir l'adoration de Jéhovah à chaque endroit où s'élève maintenant un temple idolâtre. Son royaume n'est pas de cette terre, répondit le prophète de façon impressionnante. Comment pouvons-nous alors interpréter le prophète David qui fait dire le Seigneur, j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion? Comment interpréterions-nous aussi ces paroles d'Ésaïe qui, prophétisant sur le Christ béni de Dieu, a eu ces mots « À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'ordonner et l'établir avec jugement et avec justice, dès maintenant même toujours. » Je ne sais pas. Ses secrets sont avec Dieu. Je ne peux rien révéler. Je ne suis qu'une trompette au travers de laquelle Jéhovah parle. Je ne connais pas les paroles que j'émets. Ce que je sais, c'est que l'enfant le moindre et la personne à gage la plus basse qui vivent dans le jour du Messie sont plus grands que moi. Je suis le dernier des prophètes. Je me tiens au seuil de ce glorieux royaume dont ils virent au loin la clarté et la grandeur, semblable à une certaine céleste indistincte vision. Plus près qu'eux, il m'est permis de capter des visions plus claires de sa parole, et il me sera permis de voir plus que ce que je vois maintenant. Mais de ceci, je n'ai pas de révélation certaine. C'est à moi d'ouvrir la dernière porte qui conduit de la nuit de la prophétie à l'aube glorieux du jour de l'accomplissement. Mais il ne m'est pas permis d'entrer au-delà du seuil ou d'avoir part à ses bénédictions. Tout celui qui vient après moi sera préféré à moi. Mais la volonté de Jéhovah est d'obéir. Je suis sa créature et murmurer ne convient pas à la poussière. Laissez-moi plutôt me réjouir du fait que l'étoile du jour est sur le point de se lever, quoique ses rayons brillent sur toute la terre, excepté sur moi. Ceci fut dit avec le plus touchant pathétique. Nous étions tous les deux profondément émus, car j'étais même en larmes en entendant ces paroles prononcées par lui. Mon cœur soupira pour lui avec la plus sacrée compassion. Je tombai sur mes genoux et, embrassant sa main, la baignai avec mes larmes. Doucement, il me fit lever et dit d'une voix tendre « Frère bien-aimé, tu verras celui à qui je rends témoignage, et il t'aimera, et tu te reposeras sur sa poitrine. » À cette parole, poursuivit le cousin de Marie, dont la voix était tremblante d'une sensibilité vivante alors qu'il parlait, je fondis en larmes, et me levant, je m'éloignai un peu, et, levant mes yeux vers le ciel, je priai le Dieu de nos pères afin que je sois trouvé digne de cet honneur béni. « Et verrai-je aussi ce puissant Fils de Dieu ?» demanda Joseph avec sollicitude. Le prophète prit sa main dans la sienne et, fixant sur lui les yeux de lueur prophétique, il dit lentement et d'un ton inspiré de respect craintif et douloureusement affligé « Tu le porteras un jour dans tes bras et tu le mettras sur une couche » que tu auras préparé pour ton propre repos. Tu ne connais pas ce que je dis maintenant, mais tu te souviendras quand cela va s'accomplir. » Quand il eut parlé ainsi, il se leva, et nous faisant signe de la main, s'en alla rapidement vers le désert, et aussitôt disparut à nos yeux dans l'obscurité des ténèbres qui couvraient l'endroit. « L'as-tu entendu ?» me demanda Joseph à la fin, après quelques minutes de pause. Que peuvent signifier ces paroles? Elles sont prophétiques de quelques événements effrayants. Ses yeux trahissaient un sens terrible. Mon cœur est troublé. Et le mien se réjouit, répondis-je. Nous le verrons, je serai à côté de lui. Oh, s'il est comme ce doux prophète de Dieu, je l'aimerai de toute mon âme. Combien c'est merveilleux que nous soyons associés à cette divine personne. Bienvenue l'heure de sa venue bénie. Allez-vous souhaiter la bienvenue à la venue d'un homme de souffrance ? Dit une voix tellement proche qu'elle nous fit tressaillir par sa soudaineté, et regardant tout autour, nous vîmes debout à l'ombre d'un olivier sauvage un jeune homme qui était étranger, mais à qui je devins profondément attaché plus tard. Sa face était pâle et intellectuelle, et sa forme mince, mais de la plus symétrique élégance. Et de suite, sa question me rendit triste, car elle me rappela les tristes prophéties d'Ésaïe. « Il va aussi être roi et monarque du monde, et infiniment saint et bon, » dis-je. « Si tu as été prêt, tu as entendu les choses glorieuses que le prophète a dit de lui. »« J'ai été prêt. Je m'étais allongé sous cet arbre quand vous étiez assis là. Ne vous trompez pas, le divin homme qui doit venir va être un homme de douleur et habitué à la peine. » Il va être rejeté par Israël et méprisé par Juda. Ceux qu'il vient bénir vont le mépriser pour son humilité et son obscurité. Sa vie sera une vie de larmes et de dur labeur et de serrement de cœur. Et à la fin, il sera retranché parmi les vivants, avec l'ignominie due uniquement à un transgresseur. Souhaitez-vous la bienvenue à la venue d'un homme de souffrance ? Mais comment sais-tu ceci ? « Es-tu un prophète ?» demandai-je avec surprise et admiration. « Non, frère, mais j'ai lu les prophètes. De plus, j'ai entendu les paroles de ce saint homme envoyé de Dieu, et il se repose plus sur l'humilité de Christ que sur sa grandeur royale. Croyez-moi, le royaume de Shiloh n'est pas de ce monde. Il ne peut pas être de ce monde si telle doit être sa vie et sa mort. Et cela doit être sa vie. Ésaïe le déclare clairement. Laissez-moi vous lire ces paroles. Il prit alors un rouleau de parchemin de sa poitrine et lit, par la claire lumière tropicale de la lune, ce mystérieux et inexplicable passage qui commence par les mots « Qui a cru ce que nous avons annoncé ?» Quand il eut terminé et perçu l'impression consentante qu'il avait faite sur nos esprits, il reprit « Ceci n'est pas l'histoire d'un prospère monarque terrestre, mais plutôt le récit douloureux d'une vie d'humiliation, de honte et de mépris. « Mais tu ne dis pas, frère, dit Joseph avec une certaine cordialité, que la sacrée personne à qui le prophète a rendu témoignage doit être un objet de mépris. Ésaïe n'a-t-il pas dit qu'il sera méprisé, frappé de meurtrissure, rejeté des hommes, emprisonné et mis à mort comme un transgresseur de la loi ? Il n'y a pas de doute qu'Ésaïe ne parle que du Messie, remarquai-je. Ce prophète du Jourdain maintenant porte plein témoignage d'Ésaïe et applique clairement ses paroles à celui qu'il est venu proclamer d'avance, répondit le jeune homme avec une éloquence gracieuse dans tout ce qu'il disait. Nous qui avons été baptisés ce jour pour la rémission de nos péchés, attendons un Messie de douleur. Non un prince conquérant, nous contemplons quelqu'un qui va s'humilier lui-même sous le joug des infirmités humaines, qui va être exalté et entraîner tous les hommes après lui dans un royaume dans les cieux. Mais le trône de David, objecta Joseph, est à la main droite de Dieu. Mais Jérusalem est son autorité sur les nations. Jérusalem qui est en haut sera par-dessus tout, mais son royaume qui doit être éternel. Où est la vie éternelle ? Comment peut-il diriger un royaume éternel ici sur terre sans vivre éternellement et ses sujets aussi? Ne lisez pas les prophètes ainsi. Comme Adam tomba et perdit le paradis, de même le Messie, comme un second Adam, va en tant qu'homme s'humilier lui-même dans la nature humaine pour expier pour notre culpabilité. Et ayant fait une pleine expiation pour nous par sa vie et sa mort, il va racheter le royaume du paradis pour la race humaine, mais il nous le restaure non sur terre, mais traduit en haut où les anges le gardent encore dans un royaume de Dieu. C'est ce royaume que le prophète proclame comme étant proche, et le chemin par lequel notre conducteur et roi peut fouler la boue du péché d'Adam qui s'est répandu à travers le monde, mais sans souillure de péché sur sa robe. Lui, étant celui qui porte nos iniquités, nous échapperons par conséquent au châtiment. Guéris par ses meurtrissures, nous serons libres de la peine que nos péchés exigent. Sur lui seront toutes les transgressions du monde, et par un puissant sacrifice de lui-même, ainsi chargé comme une offrande de péché, il va faire l'expiation pour la grande famille d'Adam et restaurer notre race à la réconciliation avec Jéhovah. Tel doit être notre regard pour le Messie. Hélas, pendant que nous le cherchons, mêlons nos larmes à notre joie et humilions-nous du fait que quelqu'un si saint et si excellent devra être destiné à endurer ces choses à cause de nous. Et quand nous le voyons, tombons à ses pieds dans une reconnaissante adoration de son amour et sa charité, de sa miséricorde et sa bonté, de son noble renoncement de soi et son offre de soi volontaire comme un sacrifice. Car il ne pouvait y avoir plus élevé et plus valable victime que lui dans l'univers de Dieu. Par conséquent, il s'est offert lui-même selon les paroles de prophètes rapportant son offre. « Voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. » Après que le jeune homme eut parlé, il s'en alla. Poussé par une incontrôlable impulsion, je le suivis et je le pris dans mes bras et l'embrassant, je dis « En vérité, tu es un prophète. Tes paroles apparaissent clairement à mon cœur comme l'écho de prophéties anciennes. Non, j'ai appris ces choses de l'étude de l'Écriture, dit-il avec une sincérité et une modestie angélique. Mais j'ai été aidé, combien je n'ai pas de mots pour te le dire, par quelqu'un dans lequel demeure la sagesse et la vérité par-dessus tous les hommes, et dont c'est ma joie d'avoir comme ami intime, étant donné qu'il a à peu près mon âge. Si je suis sage ou vertueux, ou bon, ou connais les Écritures, c'est qu'il a été mon conseiller et enseignant. Quel est son nom ? Demandai-je, car je voudrais aussi aller apprendre de lui. Il s'est retiré de l'œil du public et ne converse qu'avec peu de gens et évite d'être remarqué. Sans sa permission, je ne peux pas t'emmener à lui. Cependant, je vais le lui demander si tu le désires. Quelle est son apparence et où demeure-t-il ? M'enquis-je très profondément intéressé. Il demeure à présent à Béthanie, ma propre ville. Il est tellement aimé de nous que nous le retenons comme notre hôte. Mais il demeure à d'autres moments avec sa mère, une veuve de grande sainteté et de dignité matronale, vivant à Nazareth dans une condition humble, et il contribue par le travail à son soutien avec la plus exemplaire piété filiale, donnant ainsi un exemple aux jeunes hommes de Juda qui à cet âge se moquent de l'obligation envers les parents et qui, sous de mauvaises pratiques dues à la liberté de la mauvaise coutume du corban, les négligent et ne font plus rien pour leur père ou mère. En effet, jamais personne qui l'approche et parle avec lui ne le quitte sans être un homme plus sage et meilleur. En vérité, Joseph et moi dîmes à la fois « Tu as seulement accru notre désir de le voir. Son apparence doit être noble. » Il ne possède ni la beauté de forme, ni l'élégance pour frapper l'œil. Mais il y a dans son expression une dignité sereine, tempérée avec la douceur que commande le respect de l'âge et l'amour confiant de l'enfance. Ses yeux rayonnent d'une lumière calme et pure, comme s'il brille de l'intérieur des pensées saintes, et il se pose sur toi, quand il parle, avec une tendresse qui ressemble à la lumière couverte de rosée du regard d'une jeune mère quand elle se penche dans une joie silencieuse et avec larmes par-dessus la face de son premier-né. Il ne sourit jamais, ou plutôt, sa face est un soleil des rayons souriants tempérés de façon indescriptible avec un regard fixe de tristesse. Une presque imperceptible ombre de chagrin permanent qui semble préfigurer une vie d'épreuves et de souffrances. Quand il lit les prophètes et nous dévoile avec une sagesse que nous pouvons considérer comme venant du ciel, les grandes vérités en relation avec le longtemps attendu et, comme nous le croyons maintenant, proche Messie, il semble parler par inspiration, cependant sans émotion, mais calmement et naturellement à voix basse, voix qui jamais à aucun moment n'a été haussée, ni jamais été entendue dans les rues. « Il doit être un autre prophète, » dit Joseph avec une profonde sincérité. « Il ne prophétise pas et ne prêche pas, » répondit le jeune homme. « Quel est son nom ? » demandai-je. « Jésus le Nazaréen. » Nous promîmes tous les deux de nous rappeler ce nom, et comme notre chemin pour Jérusalem passait par Béthanie, nous souhaitâmes infiniment l'appeler et le voir, mais le jeune homme, doucement, désapprouva cette démarche en attendant qu'il fasse connaître notre désir à son ami. Ce n'est qu'alors, si ce dernier désirait nous voir, qu'il nous enverrait chercher à Jérusalem pour aller à Béthanie. Alors que le jeune homme était sur le point de s'en aller, je lui demandais son nom, étant donné qu'il avait grandement attiré mon cœur à lui, et je sentais que si je pouvais être son ami et l'ami du jeune homme sage de Nazareth, qui séjourne avec lui, je pourrais être parfaitement joyeux et ne pas avoir d'autres désirs, sauf, bien sûr, vivre jusqu'à ce que le Messie vienne, afin que je puisse le voir et poser ma tête sur sa poitrine sacrée. « Mon nom est Lazare, le scribe, » répondit-il alors qu'il quittait. « Quoi ? » interrompit Marie, quand son cousin eut prononcé ce nom. « Alors je le connais bien, c'est le frère de Marie et Marthe, toutes les deux mes amies à Béthanie, où j'ai passé une semaine l'année dernière, juste avant Pâques. » « Je suis content d'entendre cela, » dit Jean, « car ceci va être un lien étroit d'amitié entre nous. » Le jour suivant, nous renouvelâmes notre connaissance et 3 jours après, nous rentrâmes à la maison. Arrivé à Béthanie, Lazare apprit que son ami était allé à Cana, en Galilée, en visite avec sa mère à la maison de l'un de ses parents, dont la fille va se marier dans quelques semaines. T'ayant maintenant, mon cher père, communiqué tout ce que Jean nous raconta, tu verras ce qu'il en est de considérer le prophète du Jourdain comme un homme envoyé de Dieu, ou de croire qu'il est le vrai Élie, que Malachie avait annoncé et qui, comme les scribes les plus instruits le disent, doit premièrement venir proclamer l'approche du prince de paix, le Shiloh, l'espérance d'Israël. Mes émotions, mes idées, mes opinions à présent sont en conflit et sont pleines d'indécision. D'un côté, je suis prête pour devenir l'une des disciples de Jean du Jourdain et être baptisée par lui, regardant avec foi à celui qui doit venir après. De l'autre, je tremble de peur que tout ne soit qu'une illusion, car il ne semble pas possible que ce soit mon sort de vivre dans cet âge béni où le Messie vient, une période vers laquelle tous les patriarches et les prophètes ont regardé, désirant voir son jour, mais moururent sans posséder la promesse, le contemplant seulement au loin. L'infinie grandeur de ce privilège est tout ce qui me fait douter. Instruis-moi, cher Père, ouvre-moi les trésors de ta sagesse. Tu as lu les prophètes. Le jeune prophète du désert utilise-t-il correctement leurs prédictions dans leur application au Messie? Est-ce que l'intellectuel Lazare dresse correctement le triste portrait de sa sombre carrière sur terre? Comment les prophéties opposées peuvent-elles être conciliées d'une façon autre que celle dont le jeune homme de Béthanie les a dévoilées? Donne-moi une autre interprétation, cher Père. Comment peut-il être à la fois roi et un prisonnier? Seigneur de la vie, cependant souffrir la mort, avec un royaume sans limite, cependant méprisé des hommes. Le récit apporté par Jean a conduit Rabbi Amos à étudier les prophètes, et vraiment tous les hommes les examinent avec un intérêt inconnu avant. Car les foules qui s'en vont après avoir été chez le nouveau prophète répandent ses prédictions de tous côtés, à travers tout le pays. Peut-être Dieu est vraiment sur le point de bénir son peuple et de se souvenir de son héritage. Adina.